prend pour la contraception ou pour contrer certains effets de la ménopause. Format A3 s'intéresse aux hormones et à leur impact sur la santé.
Et nous sommes en compagnie de Rina Nissim, naturopathe, qui va donner une conférence jeudi sur le thème « Hormones, en prendre ou pas » au Centre de santé de Colombier.
Nous, c'est Rina Nissim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de Mama Mélisse, best-seller hein, sur la santé des femmes par les plantes et de la ménopause, un livre de réflexion et d'alternative aux hormones de remplacement. Alors, les hormones, les femmes, elles les utilisent souvent dès l'adolescence dans un cadre de contraception. À la ménopause, elles sont prises pour lutter notamment contre les bouffées de chaleur, la sécheresse des organes. Est-ce que finalement, ce n'est pas une si bonne idée que ça de se shooter aux hormones dès l'adolescence ?
Bien, les hormones ont toujours des avantages et des inconvénients, donc il faut toujours faire une pesée d'intérêt. Dans le cadre de l'adolescence, évidemment, les hormones sont intéressantes pour la contraception. Par contre, pour des cycles irréguliers, des règles douloureuses ou de l'acné, il y a peut-être d'autres solutions à trouver, de sorte de ne pas prendre d'hormones pendant trop d'années dans sa vie.
C'est ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, peut-être une surdose d'hormones.
C'est ça le problème, c'est que sur le long terme, c'est quand même pas une chose tout à fait saine de tromper comme ça le corps sur de nombreuses années. Si vous voulez, les hormones ont aussi des inconvénients. Elles font prendre du poids, elles fatiguent le foie et elles augmentent le risque des maladies cardiovasculaires et elles augmentent le risque des maladies tumorales, ce qui est quand même fâcheux.
Alors justement, je voulais vous poser la question, les effets secondaires négatifs de la prise d'hormones, ben vous en avez parlé, justement, ne serait-ce que la prise de poids et le problème de foie, il y en a beaucoup d'autres.
Bon, ça on s'en rend compte, si vous voulez, parce qu'on aurait éventuellement des maux de tête. Donc une jeune femme qui commence à avoir des maux de tête avec la pilule, ben voilà, on peut se douter que ça passe pas si bien que ça. Pour d'autres, ça peut très très bien passer. Hein. Maintenant, les effets sur le système cardiovasculaire et les effets tumoraux, ça se joue sur le beaucoup plus long terme, si vous voulez. On va pas forcément voir venir. Mais on sait quand même depuis les années 60, malheureusement, qu'il y a un lien entre ces hormones et les processus tumoraux, entre autres. Et donc, il faut peut-être songer à ne pas employer ces hormones pendant trop d'années. Nous, on dirait d'un point de vue naturopathique, ben voilà, une dizaine d'années, c'est déjà bien, mais au-delà, ça commence à être un peu embêtant.
Donc, une durée d'une dizaine d'années pour quelles que soient les femmes, ou alors pour certaines femmes, en fonction des différences d'une personne à l'autre, la durée peut également être différente.
Donc là, je parle de la contraception. Si vous voulez, on a la première plage de la vie. Essayez de peut-être pas commencer la pilule trop tôt dans la vie, de sorte qu'on puisse quand même en profiter pendant les années où on en a envie précisément pour la contraception cette fois. Et puis ensuite, peut-être qu'il y aura des projets de grossesse, peut-être qu'il n'y en aura pas. Et c'est là qu'il faut peut-être aussi songer que voilà, la fertilité, ça dure quand même de 15 ans à 53 ans. On ne peut pas imaginer de rester sous le même contraceptif toute sa vie. Il faut peut-être qu'il y ait des plages. Des plages pilules, des plages préservatifs, éventuellement une plage avec un stérilet ou peut-être un diaphragme ou d'autres moyens. Il faut essayer d'imaginer que sur cette longue période de la vie, il faudra changer de temps en temps de contraceptif.
Parce que les hormones, ça a une sérieuse influence sur nous en général. On entend aussi dire, lorsqu'une femme est de mauvaise humeur, ah, c'est les hormones, c'est une idée reçue, ça, ou vraiment il faut faire attention, ça peut un peu jouer avec nos émotions aussi.
Il y a une part biologique, évidemment. Il y a le jeu entre les œstrogènes et la progestérone. En fin de cycle, quand on n'a pas assez de progestérone, il peut y avoir une irritabilité qui peut s'installer. Figurez-vous qu'aux États-Unis, on a des circonstances atténuantes si on tue son mari pendant la semaine avant les règles.
Méfiez-vous, Jean-Michel. Avec les deux filles qui vous accompagnent tous les jours.
Oui, je sais.
Les hormones, on les utilise pour la contraception féminine. Est-ce que les hormones, elles sont également utilisées dans le parcours de santé des hommes?
On a essayé de la testostérone pour les hommes, pour la contraception. Ces chéris ont eu beaucoup d'effets secondaires et ça les a beaucoup contrariés. Mais ce n'est pas ça qui a fait arrêter l'étude. Ce qui a fait arrêter l'étude, c'est que des poils poussaient sur la poitrine des femmes. Et ça, on supportait mal. C'est-à-dire qu'on supporte bien qu'une femme féminise son homme en lui transpirant dessus avec des œstrogènes et que sa qualité du sperme baisse. Par contre, on supporte assez mal que des poils poussent sur la poitrine d'une femme. Mais ces recherches reprendront peut-être, parce qu'il faut encore chercher pour essayer de trouver des alternatives pour progresser. Dans votre livre, vous dites que seuls 15 à 25% des femmes sont dérangées par les symptômes de la ménopause au point de rechercher un traitement. Mais il y a quand même beaucoup plus de femmes que ça qui prennent des traitements. Justement, est-ce que c'est un peu une exagération du monde médical vis-à-vis de la nécessité de prendre des hormones ?
On a certainement tous une vision biaisée. Les médecins disent que 75% des femmes sont dérangées par la ménopause et nous avons l'impression juste inverse. Maintenant, la ménopause, c'est quand même pas une maladie jusqu'à nouvel avis, c'est un passage ordinaire de la vie. À l'adolescence, les hormones ne s'installent pas toujours avec gentillesse et harmonie. De la même manière, à la ménopause, lorsqu'elle se retire, il y a parfois quelques phénomènes qui se déclenchent, tels des bouffées de chaleur ou des choses comme ça. Donc notre point de vue serait plutôt d'essayer d'abord les alternatives, de voir dans quelle mesure on arrive à faire façon éventuellement de ces sécheresses ou de ces bouffées de chaleur par des moyens naturels. Et puis si vraiment au bout d'un certain nombre de mois, on n'y est pas arrivé, bon, on a toujours en réserve cette possibilité.
Les alternatives, pardon, je vous coupe, vous aviez encore quelque
chose. Non, c'est bon.
D'accord. Alors les alternatives, on va en parler justement dans quelques instants avec vous, Rina Nessim. Vous restez avec nous.
À 3, c'est plus sympa. Format à 3.
Et nous sommes de retour avec notre invitée, la naturopathe Rina Nessim. On s'intéresse aux effets des hormones sur la santé, en particulier celles prises pour la contraception et durant la ménopause.
Rina Nessim, vous aimeriez que les femmes puissent faire leur choix d'en prendre ou ne pas en prendre en connaissance de cause et en sachant qu'il existe des alternatives. Quelles sont-elles ?
Ben, les alternatives sont déjà au niveau alimentaire, si vous voulez. On a souvent des carences en vitamine E, vitamine F. Donc il s'agit ici des huiles pressées à froid. Des suppléments tels que l'onagre et la bourrache peuvent diminuer beaucoup de symptômes, autant à l'adolescence qu'à la ménopause. Donc c'est quand même des choses simples. Et puis après, il y a des plantes médicinales. Donc il y a des plantes qui imitent les œstrogènes, il y a des plantes qui imitent la progestérone, il y a des plantes circulatoires également, des toniques hépatiques. Voilà, on peut essayer de trouver quelque chose qui aide la femme à faire son passage de la manière la plus agréable possible.
Ce sont des traitements, des possibilités qui ont déjà fait leur preuve.
Oh, largement, vous savez, ça fait depuis 2000 ans qu'on emploie des plantes médicinales, voire plus. Donc il y a toute une littérature quand même sur la phytothérapie. Et bon, après, dans chaque pratique, moi c'était plutôt la santé des femmes, on a l'occasion d'expérimenter, d'essayer, de voir ce qui convient le mieux pour l'une, pour l'autre. Il y a une part de choses qu'on peut faire en automédication, puis il y a une part de choses plus compliquées sur lesquelles on a peut-être besoin d'un petit peu d'aide auprès d'une naturopathe, d'une ou d'un naturopathe en effet.
Vous parlez de certaines plantes, de certaines substances qui imitent les hormones. Ça veut dire que ça peut avoir exactement le même effet qu'un traitement hormonal ?
À une moins forte dose, évidemment. Donc dans la sauge, il y a quelque chose qui ressemble aux œstrogènes. Donc nos grands-mères ont employé ça pour les bouffées de chaleur pendant de longues années. Dans l'alchémie ou dans le gâtillier, il y a quelque chose qui ressemble à la progestérone. Maintenant, ce que fait la médecine moderne occidentale, c'est qu'elle prend le principe actif, elle le met tout nu dans un médicament. Alors que nous essayons de rester avec la plante qui a tous les autres ingrédients qui sont autour, un petit peu de minéraux, un petit peu de vitamines, ceci, cela. Et on prend ça en relativement petite quantité. C'est un câlin, c'est un message juste pour arrondir les angles. En allopathie, c'est déjà des messages un peu plus lourds, mais qui sont parfois nécessaires, n'est-ce pas ? Mais il faudrait les garder vraiment pour la haute pathologie ou pour les situations vraiment où c'est nécessaire. Et toutes les autres situations qui sont des troubles qu'on appelle fonctionnels, essayer de s'en sortir avec des petits moyens naturels.
Ces traitements par les plantes, est-ce qu'on peut tout simplement aller chez son pharmacien en chercher ou il faut quand même avoir une consultation avant ? Ce n'est pas totalement anodin.
Bon, il y a des pharmacies qui sont spécialisées, qui donnent des conseils comme ça. Après, il y a quand même mon ouvrage, si je puis me permettre, hein, Mama Mélisse, et puis l'ouvrage sur la ménopause. Il y a des choses toutes simples que vraiment les femmes peuvent s'emparer elles-mêmes. Elles peuvent essayer par elles-mêmes pour des troubles simples comme cela. Et puis après, si vraiment elles pensent que c'est plus complexe ou si elles n'y arrivent pas, ben elles peuvent en effet demander de l'aide à des personnes qui ont de la pratique en phytothérapie et qui peuvent les conseiller.
La prise d'hormones, on l'encourage souvent pour prévenir l'ostéoporose. C'est un risque qui est quand même important à partir de la ménopause. Dans ce genre de situation, c'est quand même utile de prendre des hormones ?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans la deuxième vague de prescription des hormones. En fait, ça n'avait pas été un grand succès au début parce qu'ils ne donnaient que des œstrogènes. Et donc, il y avait 4 à 14 fois plus de cancers de l'endomètre chez les femmes qui prenaient les hormones par rapport à celles qui ne les prenaient pas. Ils se sont fait oublier pendant 10 ans. Ils sont revenus 10 ans après avec les mêmes hormones, mais cette fois-ci œstrogène plus progestérone. Et ils nous ont promis monts et merveilles que ça diminuerait la fréquence du cancer du sein, que ça diminuerait la fréquence des maladies cardiovasculaires. Et c'est là qu'ils sont arrivés avec cette histoire d'ostéoporose. En effet, effet, les œstrogènes retiennent le calcium. Ça, c'est vrai. Mais bon, l'ostéoporose, ça touche 3% de la population. D'accord ? L'ostéopénie, peut-être un petit peu plus. Mais est-il justifié de mettre toutes les femmes sous hormones pour éviter cela ? Ou est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer une fois de plus des choses simples d'abord et ne se garder ces solutions que pour les cas les plus graves ?
Les hormones, c'est quelque chose qu'on devrait finalement peu à peu abandonner ?
Non, je pense qu'on en aura toujours besoin. Simplement, ce n'est pas une panacée. C'est valable pour toutes sortes d'autres médicaments. Là, en prenant l'exemple de la cortisone, si vous voulez, c'est un médicament extrêmement puissant, il est extrêmement utile parfois, mais ce n'est pas une panacée non plus, donc il faut essayer de limiter son usage.
Les hormones, c'est quand même ce dont on entend le plus facilement parler lorsqu'on va chez le médecin. C'est difficile après de convaincre les gens qu'on peut faire plus simple, ou même ses collègues du corps médical, qu'il y a des alternatives peut-être plus douces à proposer d'abord.
Mais je crois qu'il y a du bon sens en chacun de nous. On sait quand même que face à un problème, le premier niveau, c'est de rien faire et d'attendre, voir si ça passe pas tout seul. Le deuxième niveau, c'est d'essayer les compléments alimentaires et de voir si avec ça, on y arrive. Le troisième niveau, ce serait les plantes. Et puis après, en effet, on passerait aux remèdes allopathiques. Et puis tout en haut, il y aurait la chirurgie. Je crois que voilà, on connaît un peu ces paliers. Et je crois qu'il faut garder confiance en soi. La ménopause, c'est un phénomène naturel. Et il faut essayer d'abord avec les méthodes douces.
Et puis bon, on est en Suisse, dans un pays où l'industrie pharmaceutique est très puissante. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Tant que l'industrie pharmaceutique sera aussi puissante, on va continuer à traiter la ménopause largement à coups d'hormones.
Il y a des risques, mais il y a l'OMS qui nous a aidés. Il y a des études qui sont tombées en 2002 et en 2004 et qui ont montré ce lien avec les maladies cardiovasculaires et avec les problèmes tumoraux. Et là, le grand public a été atteint par tout cela. Donc voilà, ça fait 10 ans maintenant. Donc on aurait peut-être oublié. Donc peut-être qu'ils reviendraient à la charge avec leur vieux flanflon. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire ce type d'émission, ce type de conférence, comme jeudi soir, au Centre Prévention et Santé à Colombier, et garder les yeux bien ouverts.
Les informations, on va donc les mettre sur notre blog, également sur notre site internet. Je rappelle le titre de votre livre, La ménopause, réflexion et alternative aux hormones de remplacement. Également Mama Mélis, un best-seller sur la santé des femmes par les plantes. Merci beaucoup Rina Nissim d'être venue nous en parler ce matin.
Merci à toutes.
Et tous.
Oh
bah oui, évidemment. On vous souhaite une belle journée. Et puis on mettra évidemment toutes les informations tout à l'heure sur le blog de Format A3.
A3, c'est plus sympa. Format A3.